Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Que vous soyez de passage, que vous ayez votre siège préféré depuis des années, ou que ce soit votre première fois dans cette église, sentez-vous accueillis et les bienvenus parmi nous pour célébrer ensemble ce culte d'été. Avez-vous déjà entendu parler de Lucius Albinus ? Honnêtement, c'est assez peu probable. Je l'ai découvert grâce à mes parents, qui ont ramené d'un voyage à Alésia un livre intitulé « Sator, l'énigme du carré magique ». Sous ce titre très romanesque se trouve en fait la traduction des mémoires de Lucius Albinus, procurateur de la province de Judée entre 62 et 65 après Jésus-Christ. J'ai ouvert ce livre avec un peu d'appréhension, pour être honnête. Qu'allais-je trouver dedans ? Un livre traitant d'un symbole des débuts du christianisme, écrit par quelqu'un décrit comme agnostique, ça sonne pas super bien. Ceci dit, le potentiel historique m'intéressait, et après tout, je pouvais refermer le livre si vraiment ça allait pas. Au cours de ma lecture, j'ai découvert ce fameux Lucius et son oncle Balbus Pison, sénateur romain, à Rome donc. Je vous laisse juger l'histoire si un jour vous lisez le livre. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que Balbus s'est converti au christianisme et est en position très délicate à Rome suite à la découverte de sa foi par l'empereur Néron, qui n'était pas franchement sympa avec les premiers chrétiens. Et pourtant, il tiendra bon dans sa foi. Lucius n'est pas vraiment en meilleure position, mais pour une raison tout autre. La Judée est alors en pleine insurrection juive, qui aboutira quelques années plus tard à la libération éphémère de Jérusalem. Dans ce contexte, Balbus, l'oncle de Lucius, lui demande de partir en quête des témoins encore vivants de la vie et de la passion de Jésus pour mieux connaître son Sauveur. Tout au long de son récit, Lucius va rencontrer un nombre important de témoins oculaires et envoyer toutes les informations qu'il arrivera à recueillir à son oncle. Il ira même jusqu'à échanger avec un des soldats qui a gardé le tombeau de Jésus et qui a de ses yeux constaté la disparition du corps et la pierre roulée. Lucius a eu le loisir d'entendre de nombreux témoignages, et malgré tout cela, pour autant que nous sachions, Lucius est resté sourd aux appels de Dieu, alors que son oncle, très loin de tout ça, lui avait répondu depuis bien longtemps. Je ne suis pas certain que tout ce qu'il y a dans ce livre puisse être pris pour argent comptant. Cependant, je peux m'empêcher de penser que de nos jours, même si nous n'avons plus le loisir de pouvoir rencontrer des témoins oculaires de la vie de Jésus, Dieu parle à chacun d'entre nous à travers nos vies. Il frappe à notre porte de nombreuses manières. Il veut notre bien. Jésus a déjà payé le prix par son sacrifice à la croix. Tout est gratuit. Il n'y a qu'à accepter ce cadeau, quand bien même il est incroyable. Pas d'offre à durée limitée, pas de partir avec et payer plus tard. En fait, il n'y a rien à payer du tout. Il y a juste Dieu à laisser entrer dans nos vies. Et ce matin, pour commencer ce culte, j'ai à cœur de prier pour tous les gens qui sont encore en chemin. Mon Dieu, tu t'es fait homme en envoyant ton Fils Jésus-Christ dans notre monde tordu et malade. Par sa mort, il nous a lavés de nos péchés. Mon Dieu, ton Saint-Esprit n'a de cesse de frapper à la porte de nos cœurs, mais trop souvent, nous ne répondons pas. Seigneur, je te prie pour que les cœurs s'ouvrent à ton appel. Je te prie pour que les vies brisées soient restaurées par ton amour infini pour l'humanité. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu as façonné chacun des humains de cette terre. Nous sommes faits pour t'accueillir au plus profond de nous. Je te prie de désendurcir les cœurs, mon Dieu, pour que partout sur cette terre, ton amour se répande et que nous louions ton nom d'une seule et puissante voix. Amen.
Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je crois que ça fait partie des paroles que les témoins oculaires ont mises par écrit dans les évangiles. Et je crois que c'est un vrai sujet de louange. Alors je vous invite à louer le Seigneur avec nous.
Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la mort de la terre à la croix. Payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
Je vois ton bras.
Je vois ton bras. Je sens ta main. Tu me protèges. Tu me soutiens. Tu es. Tu seras toujours là. Ébloui. Ébahi par l'amour.
je désire habiter près de toi.
Tu es ma lumière.
Tu je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai. Si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, non rien ne peut détruire notre bel avenir, et même si je suis même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix.
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu mon essentiel. Je chanterai en honneur de son nom.
Je chanterai gloire.
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Est-ce qu'on a des enfants ce matin ? Oui, il y en a, parfait. Eh bien, vous allez pouvoir suivre Élise qui va se lever, qui a préparé des petites choses pour vous en bas. Et je vous souhaite un très bon moment de culte.
Je vous invite à la prière pour accueillir la parole de Dieu. Seigneur, merci pour les témoins du passé qui ont reconnu ta présence et l'importance d'en laisser une trace écrite. Seigneur, merci pour l'action de l'Esprit qui peut faire de la parole lue et entendue une parole vécue. Seigneur, dispose notre être entier à l'écoute et à l'action à la suite de tes témoins. Amen.
Lecture de la parole de Dieu. Ruth, chapitre 2. Versets 17 à 23. Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit les épis qu'elle avait ramassés. Elle remplit un grand sac de grains d'orge. Elle porta le sac jusqu'à la ville et sa belle-mère vit tout ce qu'elle avait récolté. Elle ramena également ce qui était resté de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui demanda : Où as-tu glané aujourd'hui ? Dans quel champ as-tu travaillé ? Que Dieu bénisse celui qui s'est intéressé à toi. Ruth raconta à sa belle-mère qu'elle avait travaillé dans le champ d'un homme appelé Boaz. Noémie déclara : Qu'il soit béni par le Seigneur qui garde sa bonté pour nous les vivants, comme pour ceux qui sont morts. Elle ajouta : Cet homme, Boaz, est notre proche parent, un de ceux qui peuvent exercer le droit de rachat envers nous. Ruth, la Moabite, reprit. Il m'a même dit, travaille avec mes serviteurs jusqu'à la fin de la récolte de tous mes champs. Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, très bien, ma fille, continue de travailler avec les servantes de Boaz. Si tu allais dans le champ de quelqu'un d'autre, tu risquerais d'être maltraitée. Ruth resta ainsi avec les servantes de Boaz jusqu'à ce que tout l'orge et tout le blé aient été récoltés. Elle continua à habiter avec sa belle-mère.
Alors avant de vous parler de ce texte ce matin, je vais dire deux, trois mots sur moi. Je m'appelle Agnès Cruzelli et je suis diacre à l'église protestante de Genève, dans la région ici, avec une répondance pour le Mandement et pour Vernier Village. Et je suis contente d'être là ce matin avec vous pour pouvoir louer ensemble le Seigneur, témoigner ensemble de notre foi avec nos manières différentes et de nous rencontrer un petit peu pendant ces cultes qui sont un peu particuliers et pour les uns et pour les autres. Alors, une particularité, c'est que je suis en robe liturgique. Dans une église où on parle du sacerdoce universel, Ça peut paraître étrange, et nous avons des personnes qui prêchent en civil, nous avons aussi des prédicateurs laïcs, des chargés de ministère. Mais voilà, pour moi, dans ma fonction, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi et qui m'aident aussi à me préparer et à me souvenir que ce n'est pas moi qui parle, mais que je suis un vecteur de quelque chose avec ce que je peux apporter. Voilà. Alors, j'arrive au texte de ce matin. Cet été, nous parcourons le livre de Ruth en 8 épisodes. C'est un peu la saga de l'été. Aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode 4. Et comme nous sommes plusieurs à apporter un message sur ce livre, dans des lieux différents, à Mérin, mais aussi dans les autres paroisses protestantes de la région, je ne sais pas qui parmi vous a participé à quel culte, qui a entendu quoi, et je ne sais même pas qui a dit quoi, parce que je n'ai pas le don d'ubiquité. Alors, je vais faire un peu comme dans les récapitulatifs de séries télé. Je vais vous donner quelques éléments clés pour savoir où on en est. Ça commence par Noémie, la douce, ma gracieuse, et Élimélec, mon Dieu est roi, qui sont partis vivre à l'étranger, à Moab, qui veut dire « issu du père ». Suite à une famine à Bethléem, la maison du pain. Il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. Leurs deux fils, Malon, le faible, le malade, et Kilion, le fragile, l'épuisé, avaient pris épouse. Orpa était le nom de l'une, la nuque, qui tourne le dos, et Ruth, l'amie, la compagne, qui s'attache. Et il se trouve que ces trois femmes, Noémie, Orpa et Ruth, se sont retrouvées veuves. Et alors qu'Orpa est retournée chez sa mère, Ruth a suivi Noémie à Bethléem. Arrivée à Bethléem, Noémie se fait appeler Mara, amère, suite à tous les coups durs qu'elle a vécus. Ruth a trouvé un champ où aller glaner, et elle a fait la rencontre de Boaz, force en lui, qui lui permet de glaner et la protège d'attaques possibles. Ruth a de quoi se nourrir et nourrir Noémie dans l'immédiat. La situation semble se détendre momentanément, en tout cas. Alors, au temps de la Bible, une femme seule était en mauvaise posture. Non seulement elle n'avait pas de quoi vivre parce qu'elle dépendait du mari, mais il faut aussi dire qu'une femme sans la protection d'un homme était en danger d'agression, de viol. Et Ruth est étrangère d'un peuple, les Moabites, avec qui les Juifs n'entrent même pas en conversation habituellement. Elle vient d'un pays associé à la débauche, c'est un pays hostile. Alors, on a planté le décor, c'est pas vraiment rose, c'est pas vraiment lisse. Et je me dis que quand on y regarde de plus près, en fait, c'est souvent le cas dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Ce livre, qui est le seul avec celui d'Esther, qui porte le nom d'une femme, est un exemple de tension et de pas tout simple. Quand on le lit en entier, et je vous le conseille, il n'est pas très long, on découvre son rythme, ses images, les descriptions. C'est un très beau livre du point de vue littéraire. Il est beau à lire, oui, mais il est complexe quand on s'y attarde. Comme le personnage de Ruth, dont on a l'image d'une femme exemplaire et fidèle. C'est juste, mais c'est aussi un peu plus complexe que ça. Ruth est un personnage ambigu, à la fois courageuse et déterminée. Son comportement, tout comme celui de Noémie d'ailleurs, est en décalage avec les normes sociales de l'époque. Ça, il faut le dire aussi. Voilà donc ces deux femmes à Bethléem avec plusieurs problèmes. Premièrement, Ruth est une étrangère, une Moabite, on l'a entendu, on ne parle pas avec elle d'habitude. Deuxièmement, elles sont toutes les deux veuves et elles n'ont personne pour s'occuper d'elles.
La loi du Lévirat voudrait que le frère du défunt épouse la veuve afin de faire suivre la lignée et le nom. Or, il n'y a pas de frère. Troisième problème, elles sont démunies, sans le sou. Élimélec ayant vendu ses terres avant de partir. Alors, il y a bien là ce qu'on appelle la loi du rachat, et on l'a entendu dans le texte, qui prévoit qu'un membre de la famille rachète les terres et subvienne aux besoins de la famille. Ça sera Bose. Mais comment s'y prendre ? Ruth se bat pour sa survie. Elle a un but devant elle, assurer une descendance à Israël. Oui, elle doit survivre, et elle se sent responsable de sa belle-mère, Noémie, qu'elle a suivie. Alors elle a un plan ambitieux, et elle prend beaucoup de risques. Si elle échoue, elle sera totalement mise à l'écart. Elle va tenter, et elle va réussir, de passer du statut d'étrangère veuve à servante, puis à femme légitime. C'est pas rien. Et elle passera de moins que servante à beaucoup plus que ça, puisqu'elle deviendra la grand-mère de David, et par là, une des aïeules de Jésus. Alors, on a de Ruth l'image d'une femme exemplaire et fidèle. Et dans ce livre, il y a une préoccupation éthique, en fait, au centre de ce livre. Mais je vous l'ai dit, il n'est pas ni rose, ni lisse, ni noir ou blanc. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il a été écrit dans le contexte post-exilique et dans le contexte d'une lecture assez littéraliste des règles de vie et des règles liées au temple, notamment faites par les prophètes Esdras et Néhémie. Alors Esdras et Néhémie voyaient un peu la vie en noir et blanc. On suit les lois de la Torah et tout ira bien. On s'attache à la lecture littérale des lois de sorte à préserver le temple. Et le livre de Ruth, ben, il vient apporter un autre regard, subversif, sur la règle du tout au temple et tout à la Torah. Par l'histoire de Ruth, une croyante étrangère, ce livre apporte une ouverture au message du Messie, au message de Dieu par-delà les lois strictes. Il ouvre à l'attente du Messie, on l'a entendu. Jésus est de la descendance de Ruth. Il parle d'universalisme, il parle aussi de rétribution et du sens de la souffrance. Dans le canon biblique, il fait partie chez les Juifs des Ketuvim, les écrits qu'on lit aux fêtes à la Pentecôte. Alors Pentecôte, c'est la fête de la moisson de l'orge. Le blé vient quelques semaines plus tard, mais c'est aussi la fête du rappel du don de la Torah, de la loi de Dieu. Dans un autre ordre, dans la Bible, dans la Septante, qui est la première traduction de la Bible hébraïque en grec, faite au 3e et 2e siècle, le livre est entre les juges et Samuel, et il propose une espèce de légende sur l'origine de la famille davidique, qui nous intéresse parce que c'est aussi la famille de Jésus. Alors, je vais revenir sur la question éthique sur laquelle je voudrais mettre l'accent aujourd'hui. C'est celle de la valeur de chacun d'entre nous. Elle se manifeste dans ce texte par le lien à la loi de Dieu, par la reconnaissance qui nous met en lien avec Dieu, mais aussi avec nous-mêmes et avec l'autre. Et elle se manifeste aussi par la rétribution, la bénédiction. Dans le passage précédent à ce qu'on a entendu aujourd'hui, Bose dit à Ruth que le Seigneur te récompense pour ton adoration, pour ton action. Oui, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te récompense abondamment, puisque c'est sous ses ailes que tu es venu chercher refuge. Et dans le passage lu ce matin, c'est Noémie qui bénit Bose. Qu'il soit béni par le Seigneur qui garde sa bonté pour nous, les vivants, comme pour ceux qui sont morts. Alors, rappelons-nous que Ruth est une veuve étrangère,
sans aucun moyen de subsistance, elle n'a pas de statut, elle n'a pas de valeur sociale. Elle est dans un profond désarroi, dans une situation sans issue. Et pourtant, la réponse, une solution à sa situation arrive par une rencontre. Et pas une rencontre avec n'importe qui, on l'a entendu. Bose fait partie de la famille. C'est quelqu'un qui peut racheter la famille. Elle qui a perdu la perte de son mari, et Noémie aussi, elles sont les deux perdues. Et on se rend compte là que la vie peut basculer d'un instant à l'autre, que le sentiment d'injustice ou de révolte peut être d'une grande intensité. Au-delà du cri, quand il se donne à entendre, quand il n'est pas étouffé par les convenances, quand il n'est pas barré par l'angoisse, comment trouer cette impasse ? Alors on peut se lamenter sur son sort, comme Noémie qui s'enlise dans son amertume, mais au-delà de ça, comment trouver en soi la force et les ressources pour affronter une difficulté de vie et la dépasser ? Comment convertir le regard ? Comment supporter sa difficulté d'être ou celle d'autrui ? Difficile de ne pas se contenter du sentiment d'injustice. Difficile de croire, envers et contre tout, que Dieu reste présent à l'expérience de la souffrance et qu'il continue de guider nos pas, de faire avec nous le chemin d'exaucement de nos prières. Alors comment lire les événements de la vie ? Les réponses sont variées. L'un dira, c'est Dieu qui l'a voulu. L'autre, c'est le destin, c'est le hasard. Un autre encore, c'est ainsi, mais je crois que Dieu me relèvera. Et un autre enfin, je ne sais pas, j'espère. Là où il n'y a pas d'issue, Dieu a fait sortir Ruth de l'impasse. Espérer, c'est ce que Ruth a fait. Espérer et agir en fonction de son espoir. Elle est allée trouver un champ, y a travaillé de manière acharnée, a demandé à Bose de la regarder avec bienveillance. Cette rencontre, elle s'est faite entre Bose et Ruth, mais elle met aussi en lumière ce qu'on peut faire comme rencontre avec soi-même, à travers celle qu'on fait avec Dieu. Alors elle est allée glaner dans les champs de Bose, elle a eu une vraie rencontre entre ces deux personnages. Bose a reconnu Ruth comme un être humain à part entière, pleinement. Il savait qui il était et il savait aussi ce qu'elle a fait en fidélité pour Dieu et pour Noémie. Et il l'a reconnue tout autre que lui, tout autre que moi. Ça veut dire reconnaître l'autre comme un être humain, lui aussi. Bose s'est laissé déplacer, tant dans son lien à Ruth, l'étrangère, que dans son lien à Dieu et dans son lien à lui-même. Il dit à Ruth qu'il la reconnaît, elle qui s'est mise sous les ailes de Dieu, sous les ailes de celui qui nous fait naître. Dans les plis de la vie, il est des temps où il fait bon de se retrouver sous la protection de quelqu'un, comme Ruth, ici, sous la protection de Bose. Quand la vie est blessante, qui viendra nous dire « Je place une barrière autour de toi », non pas pour t'empêcher d'être, mais pour préparer ton déploiement, pour que l'on ne t'agresse pas davantage. Ainsi, en amassant patiemment de quoi survivre, tu es sous la protection de celui qui t'appelle à la vie. Le désir de vivre passe par ce regard de reconnaissance qui me convoque à moi-même, alors même que je pense être inconnu au regard des autres, tellement l'image que j'ai de moi est fragilisée. La situation se dénoue. Ruth rentre après avoir glané. Elle rapporte un sac d'orge à Noémie et les restes du repas du jour. La survie pour ce jour est garantie, mais la survie à terme
est encore une autre chose. Boaz, fort heureusement, lui a dit de rester avec ses servantes jusqu'aux moissons d'orge et aux moissons de blé, qui se passent 2 à 3 semaines plus tard. Elle est sous sa protection pendant ce temps et assimilée à ses servantes. Ce n'est pas suffisant pour Ruth. Elle a besoin d'une sécurité durable. La survie à terme de Ruth et de Noémie se fera par le rachat dont on a entendu parler, mais ce sera dans un prochain épisode. Mais on a ici quelque chose d'important, c'est ce tournant qui permet le rachat. Et ce tournant, il s'est fait par la rencontre. Je reviens à la valeur sociale de Ruth. Entre ce chapitre et le suivant, le texte joue avec le lecteur à propos de la valeur sociale. Comment reconnaître la valeur de quelqu'un ? À partir de son statut social ? Bon. De ses possessions ? Pas facile pour Ruth. Prenant appui sur ces catégories, le récit montre qu'elles ne sont pas une fin en soi, mais que la valeur se mesure à leur utilisation. La personne de valeur est présentée comme celle qui sait agir avec bonté, avec fidélité. C'est-à-dire celle qui sait investir avec intelligence ce qu'elle possède ou ne possède pas en termes de revenus pour l'existence d'autrui. Dès lors, la valeur ne se réduit pas à l'apparence, mais elle se déploie dans les liens tissés, par-delà les générations, avec ceux et celles qui sont autour de soi et qui nous permettent de témoigner aujourd'hui. Alors venons-y à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit sur la valeur des personnes que nous rencontrons et sur notre propre valeur ? Comment est-ce que je rencontre une personne inconnue, une étrangère dans la rue ou dans mon entourage proche ? J'ai travaillé à l'Agora, qui est l'aumônerie œcuménique auprès des requérants d'asile et des réfugiés. Et nous en avons souvent parlé avec des usagers. Comment savoir si la personne en face de moi est un haut dignitaire de la diplomatie ou un balayeur de rue ? Sa couleur de peau dit-elle sa nationalité ou son statut légal ? Ses habits peut-être. Dans une ville où le paraître est important, comme à Genève, comment déterminer qui est qui ? Si je prends les jeunes, est-ce que le fait de se promener en jogging dit réellement quelque chose sur le statut social de la personne ? Est-ce que la valeur d'une personne se limite à son statut social ? Est-ce qu'elle se définit par ce qu'elle possède, par le nombre de montres, la taille de la voiture ou celle de la maison ? Est-ce qu'elle se définit par son métier ? Et là, je pense à ces personnes venues de pays d'Amérique latine ou du Moyen-Orient qui ont un diplôme universitaire, voire des doctorats, et qui travaillent comme aide à domicile ou comme chauffeur. Ou comme balayeur de rue, pourquoi pas, s'ils ont un statut. La valeur est-elle liée à leur formation, leur titre acquis dans leur pays d'origine, ou à leur titre de séjour et leur possibilité de travailler ici ? Ou est-ce encore par autre chose que leur valeur se compte ? Est-ce qu'en me regardant, vous voyez que je suis la fille d'un réfugié ? Qui a fui le régime politique de son pays après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous voyez quel est mon degré de formation ? Quelles sont mes conditions de vie ? Mon histoire ? Et est-ce que c'est ça qui me définit ? Qui nous définit, chacune et chacun ? Le texte de Ruth nous apprend que la valeur n'est pas dans l'origine, ni dans le titre ou les possessions, mais dans le lien qui se tisse entre les gens. Ma valeur en tant qu'être humain ne se calcule pas sur le nombre de mes réussites, ni sur le montant affiché sur mon décompte de salaire, ou encore sur le titre de la formation que j'ai suivie. Ma valeur comme être humain est liée à ce que je vis comme lien avec Dieu, avec mon prochain et avec moi-même, à ma capacité à être en lien et à créer quelque chose dans la relation avec l'autre. Alors, je crois que ce texte peut nous inciter à ça, à aller à la rencontre de notre prochain, à entrer en relation avec lui ou avec elle, à lui donner une réalité par les échanges que nous pouvons avoir, investir en lui par des discussions, un soutien pour apprendre le français ou, je ne sais pas, un autre soutien nécessaire pour des cours, ou alors des échanges de recettes et d'univers. Alors, oui, suivons la loi de Dieu et puissions-nous nous montrer fidèles à lui, comme l'a fait Ruth avant nous et comme l'a fait Jésus avant nous. Et alors, sa bénédiction nous touchera à travers ces liens que nous tissons les uns avec les autres. Amen.
Merci Agnès pour ce message que Dieu t'a confié pour nous ce matin. Je vais vous inviter à prendre un moment de prière libre, mais avant ça, j'aimerais juste vous partager quelque chose qui a résonné pour moi dans ce message. Il s'avère que, pour ceux qui ne connaissent pas, je travaille en France dans une société, une grosse société multinationale, et je gère une équipe de 3 personnes. Dans ces 3 personnes, il n'y en a pas une qui est d'origine française. Pas une. J'ai un Nigérien, une Sénégalaise et un Turc. Et franchement, c'est des super humains, malgré toutes les différences qu'on a, et on n'est pas d'accord sur plein de choses, mais il y a de la valeur dans chacun. Et je pense que, particulièrement en France, on a tendance à l'oublier. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, donc, je vous invite à prendre un moment de prière libre dans votre cœur ou à haute voix, et je le conclurai par une prière.
Accueillir l'autre, Seigneur, tu nous appelles premièrement à nous accueillir soi-même, nous-mêmes. Nous qui sommes là avec nos défauts, nos statuts sociaux, mais aussi, Seigneur, ces valeurs que tu veux nous transmettre. Merci parce que tu nous régénères. Tu es celui qui nous transforme. Tu es celui qui nous permet de nous accepter. Et par là, Seigneur, d'accepter la rencontre avec l'autre. Merci parce que tu veux le faire pour moi et pour chacun. Et que cette rencontre puisse vraiment être bénie, signée par ton amour et ta miséricorde. Amen.
Amen. Merci pour les rencontres que j'ai faites, pour les personnes aussi étrangères que j'ai connues, que j'ai lié des amitiés au Seigneur. Merci Seigneur, vraiment tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu qui n'abandonne jamais. Et moi je me mets sous tes ailes Seigneur, parce que tu es le seul Seigneur à qui je peux me confier. Dans le nom de Jésus, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Amen.
Amen. Merci aussi, Seigneur, parce que tu nous montres que nos besoins comptent pour toi. Aide-nous à les manifester, à les poser devant toi et à et avoir soif de ta bénédiction, Seigneur. Ruth, elle a vraiment... Elle n'a pas hésité, elle s'est avancée pour... montrer qu'elle était dans le besoin. Et elle a été bénie, Seigneur. C'est vraiment extraordinaire que cette attitude a conduit à bénir tant d'autres personnes. Merci, Seigneur, pour ce texte. Amen.
Merci, Seigneur, pour prendre soin de vous. Comme tu as fait avec Ruth et Noémie, tu ne les as pas laissées seules et tu fais la même chose aujourd'hui avec nous. Merci pour prendre soin de chaque personne ici. Je te remercie pour la famille de chaque personne ici, pour la santé, pour les aliments, pour où on habite. Merci beaucoup Seigneur pour prendre soin de chacun et de ne pas laisser seul. Tu es toujours avec nous et tu le seras toujours. Merci que ton nom il soit béni toujours. Et qu'on te rend grâce jour à jour à travers le jour. Amen.
Mon Dieu, tu es tout puissant. Tu es toujours prêt à nous aider à condition que nous acceptions ta présence dans nos vies. Tu nous sors de l'ornière. Ton temps n'est pas le nôtre, mais toujours tu es là. Seigneur, je te prie que tu nous gardes du jugement, que nous soyons un havre de paix pour les gens qui sont perdus, qui viennent du village d'à côté ou de l'autre bout du monde. Je te remets ces vies qui sont parfois fortement chamboulées, trop souvent, Et je te remets à toutes les personnes qu'elles vont croiser dans leur parcours. Au nom de Jésus. Amen.
Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré ses souffrances, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Parle simplement, je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie pour qu'un jour je vois que moi aussi. Par contre, ton amour a fini, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Jusqu'à maintenant tu es vivant, jusqu'à maintenant tu es puissant, parce que là, tu me dis le commun, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es vivant, puisque maintenant tu es puissant, parce que tu me dis le commun, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Nous allons maintenant entrer dans le temps de la scène, après ce beau chant. La scène, c'est la reproduction du dernier repas pris par Jésus avec ses disciples avant sa crucifixion. C'est en même temps un moment de communion pour tous les chrétiens avec Dieu, et c'est également une promesse. Une promesse qu'il reviendra, et que si nous le choisissons comme sauveur personnel, tous nos péchés sont pardonnés par sa mort à la croix il y a maintenant 2000 ans. Tout a été payé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La vie éternelle aux côtés de Dieu nous est offerte. C'est la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. N'attendons pas pour en profiter. Aujourd'hui, nous allons lire l'institution de la scène dans le livre de Matthieu, chapitre 26, les versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a trois personnes qui vont passer dans les rangs, une personne avec la coupe. Au niveau du vin, au centre, dans les gobelets de couleur, c'est du jus de raisin, et dans les gobelets transparents, c'est du vin. Du coup, je me suis un peu planté dans les calculs, j'ai besoin de deux personnes supplémentaires, s'il vous plaît. Merci. Pour la coupe, il suffit juste de me faire signe.
Voilà la base. À la base, nos problèmes de relation viennent du fait que justement, nous avions coupé la relation à Dieu Et ce que nous venons de vivre, ben c'est le souvenir de ce que Jésus a fait pour rétablir cette relation avec nous et que nous puissions rétablir nos relations les uns avec les autres. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, seulement ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu
confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai.
Approchons de la fin de ce culte. Comme vous le savez, l'église vit des dons. Et pour ce faire, on a un petit code Twint derrière, si vous voulez. Il y a également la possibilité de faire des transferts bancaires. Je ne sais plus le terme exactement en Suisse, excusez-moi. Et aussi, depuis quelque temps, on a repris le passage dans les rangs. Donc nous allons passer, puis ensuite je passerai aux annonces et Agnès clôturera ce culte par une bénédiction. Donc, quelques annonces. Alors, déjà, premièrement, dans 10 jours maintenant, le mercredi 31 juillet, il y aura les grillades. Donc, n'hésitez pas, je crois qu'il y a des petits affichages à l'entrée. Autre information, le culte de la semaine prochaine, donc au CEPOM. Donc, il n'y aura rien ici dimanche matin prochain. Et avant de vous laisser partir tranquillement au café qui sera servi juste derrière, l'information la plus importante. Pour information, Philippe sera en vacances à partir de ce midi, et c'est très important parce que ça permet de se ressourcer, de revenir en pleine forme, et sera de retour le 7 août. Voilà.
Merci Nicolas.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que ton esprit, Seigneur, élargisse notre cœur et l'ouvre à toutes celles et ceux que nous allons rencontrer. Que nous puissions sortir de ta maison, aller à la rencontre du monde, tisser des liens avec celles et ceux que tu mets sur notre route, partager ton amour et l'espérance. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos esprits. En Jésus-Christ. Amen.
Bon dimanche.
Merci. Merci.
Merci.
Attends, je vais juste prendre ça. Allez.
ce matin avec ta maman. C'est...